Good Morning Business, le grand entretien.
Il est 7h43 sur BFM Business. Notre invité ce matin, c'est Olivier Dellenbach. Bonjour, vous êtes le PDG de ChapVision. Depuis 15 jours, vous êtes l'entreprise dont tout le monde parle, qui va prendre la suite de Palantir pour un contrat pour la DGSI. Alors Palantir, spécialiste américain évidemment de l'analyse de données, 7 milliards de dollars de chiffre d'affaires comparé à vous, c'est évidemment un géant, Palantir, géant mondial. Vous, vous êtes plutôt autour de 200 millions d'euros de chiffre d'affaires. Comment ça s'est passé? C'est-à-dire que c'était en cours, un appel d'offres classique. Il y avait cette idée de devoir remplacer les Américains rapidement. Il y a eu un changement d'ambiance auprès de l'État?
Pas vraiment, en fait. L'idée a émergé maintenant depuis plus de 3 ans de développer un système français, européen, pour remplacer le Palantir utilisé à DGSI. Ça a été un process compétitif qui a pris du temps, 3 années, qui a abouti à un premier point d'étape il y a 1 an et demi où on a signé un premier lot. On a effectivement été choisi pour le deuxième lot juste il y a maintenant 1 mois. Ça a été annoncé, voilà. Ivatech a été une opportunité pour l'annoncer. Mais
ça fait 3 ans que vous travaillez dessus.
Mais c'était dans les tuyaux et de toute façon, ça fait 3 ans qu'on travaille dessus.
Votre activité à vous, est-ce qu'elle est comparable à ce que produit Palantir dans la gestion des données? Est-ce que vous faites exactement la même chose? Est-ce que c'est différent?
Oui, après, Palantir a 15 ans de plus que nous. Donc tout le monde s'étonne que l'on fasse 200 millions versus plusieurs milliards. Mais en même temps, on est une société beaucoup plus récente. On a des ambitions importantes. Et oui, on fait à peu près la même chose, à la fois dans le public et pour les services de l'État. La capacité de collecter des énormes volumes d'informations, de pouvoir les traiter, les analyser, et ensuite aider les entreprises, aider les services de l'État à récupérer une information pertinente et prendre des décisions dessus.
On s'étonne pas, en fait, sur la question de taille. C'est que souvent, l'État a tendance à choisir des grosses entreprises par rapport à des start-up en disant, il y a une question de confiance, j'ai peur que la start-up, elle disparaisse, et donc va naturellement vers des grosses entreprises. C'est plutôt ça.
Oui, après, là, c'était un contexte un peu spécifique, puisque la France avait un système américain qui donnait satisfaction et qui donne satisfaction, est toujours bien sûr installé là-bas. Donc l'idée, c'était pas de remplacer par un système moins-disant, bricolé, sous prétexte qu'il était français. C'est impossible, surtout sur des enjeux qui sont stratégiques comme le domaine de la sécurité. Donc l'idée, c'était vraiment de voir d'abord s'il était possible de faire émerger un industriel français capable de, entre guillemets, faire le job. Ça a pris du temps, parce que c'est des projets extrêmement complexes. Maintenant, ça prend un peu de temps pour tuer les deux systèmes. On ne remplace pas et on ne débranche pas un système en 2 jours pour le remplacer par un autre.
On entend autour de 3 ans pour...
2-3 ans, ouais. Je dirais que vous allez dans le monde d'entreprise, vous demandez à n'importe quel directeur informatique combien de temps pour débrancher un système et le remplacer par un autre système. En général, c'est entre 18 mois, 2 ans. Voilà, ça me semble tout à fait raisonnable.
Donc aujourd'hui, vous fournissez la même qualité de service?
Alors, ça, c'est ce que l'avenir, évidemment, montrera, puisque le produit n'est pas encore en place chez le client. Mais on a très grand niveau de confiance sur le fait que notre produit est capable de faire exactement la même chose, même avec éventuellement quelques atouts en plus.
Alors justement, votre produit, c'est la plateforme Argonaut, c'est
absolument
ça? Comment ça fonctionne?
Argonaut, c'est un système assez complexe qui est découpé en plusieurs modules. Le premier, en fait, va aller chercher l'information, la donnée brute, de différentes sources, les entrepôts de données, il y a plein de données sur des volumes gigantesques qui sont collectées. Ensuite, il y a un processus de raffinage, un peu comme le pétrole, où on transforme de l'information très brute, la vidéo, l'audio, le texte, en une information très détaillée. On extrait toutes les informations les plus pointues de cette masse colossale. Et ensuite, on essaye de la représenter sous une forme lisible, compréhensible. On appelle ça des modèles de graphes, dans lesquels les objets sont en relation avec les autres, et avec d'outils, l'IA en particulier, l'intelligence artificielle, qui permet ensuite de répondre à des questions, alors évidemment qui dépendent des cas d'usage. Dans l'entreprise, on va poser des questions sur est-ce que ce type de produit est susceptible d'intéresser ce type de client. Dans le monde du renseignement, ça peut être est-ce que ce type de personne est en relation avec ce type de personne, etc. Enfin, il y a tout un sujet évidemment qui dépendent des cas d'usage, mais qui servent à répondre à des questions qui sont d'intérêt pour le client.
Justement, les clients, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des marques d'intérêt de la part de l'Allemagne, de plein de pays européens, d'entreprises. Quand on travaille dans le renseignement, est-ce qu'à un moment donné, on choisit? Il y a des clients auxquels vous dites non?
Oui, alors ça, c'est quelque chose qui est très important, parce qu'on se rend compte surtout en ce moment que des systèmes logiciels qui traitent des volumes de données de masse, ça peut être, on peut avoir ce qu'on appelle des usages duaux, hein, c'est-à-dire dans le monde d'entreprise, et même dans le monde d'entreprise, j'irais, il y a en Europe le RGPD, hein, qui est quand même un cadre très contraignant qui s'impose à nous. Dans le monde de la sécurité, vous avez la problématique de l'éthique, de la compliance. Est-ce que j'ai vraiment envie de vendre mes systèmes à tel pays? Est-ce que j'ai envie de le vendre à tel type de client pour tel cas d'usage? Donc ça, c'est quelque chose, c'est une préoccupation qu'on en a en permanence. On a d'ailleurs créé un comité éthique, hein, fait de personnalités indépendantes, ouais, qui nous aide.
Mais qui dit oui ou qui dit non, qui met un veto.
Et qui a un droit de veto, en fait. On lui a donné, ce qui est plutôt exceptionnel, parce qu'en général, les comités éthiques, c'est plutôt, on va dire, des comités consultatifs. Ouais. Hein, on leur demande.
Là, il peut dire non.
Et là, en l'occurrence, sur certaines acquisitions, il nous a dit non, par exemple, en disant non, vous ne pouvez pas acheter ce type d'entreprise, parce qu'elles sont sur des sujets qui sont trop compliqués, on va dire.
Mais il y a quel genre de profil dans votre comité d'éthique?
Alors, vous pouvez les regarder sur le site web, mais en l'occurrence, ambassadeurs, personnalités complètement indépendantes, hein, qui n'ont rien à voir avec l'entreprise. Président, par exemple, du comité TIC, c'est l'ambassadeur Levitt, qui nous aide à coordonner toute cette prise de décision.
Vous me dites que ça fait 3 ans que vous discutez avec l'État, mais ils ont re-signé en décembre dernier avec Palantir, donc la prise de conscience est quand même assez lente. Est-ce que là, vous remarquez, par exemple, avec ce qui s'est passé autour de Mythos ces derniers jours, qu'il y a un changement dans la tête des décideurs, mais aussi des chefs d'entreprise?
Alors, je pense que il y a beaucoup d'excitation autour de ces sujets-là, mais quand même, c'est un phénomène qui ne date pas, hein, comme je le disais, de hier. Ça fait 3 ans, quelque part, qu'on travaille d'arrache-pied tous les jours. Hein. J'ai une équipe de plus de 100 personnes qui ne travaillent que sur ce projet pour essayer de construire un système capable de remplacer le Palantir. Après, on s'étonne que ça ne se fasse pas du jour au lendemain. Oui, Palantir a annoncé en décembre qu'ils étaient renouvelés, mais c'est normal, ça va prendre du temps. C'est des changements qui sont extrêmement complexes. Donc, on s'étonne de choses qui sont en fait tout à fait normales. Ce qui a changé, c'est l'état d'esprit. Ça, c'est clair, en fait. Il y a une volonté de plus en plus au niveau de chacun des États européens à s'affranchir un peu des Américains. Je dirais, d'une certaine manière, Donald Trump est vraiment, quelque part, le meilleur ambassadeur de ce changement, en fait.
Et est-ce qu'aujourd'hui, vous voyez un écosystème dans la défense, mais aussi dans l'intelligence artificielle, capable de répondre justement au fait qu'on ne veut plus d'acteurs américains ou être moins dépendants?
Ouais, je pense que déjà, on essaye de montrer très modestement sur notre sujet qu'on peut rivaliser contre des sujets très... pourtant très complexe comme le traitement massif de données. On le voit avec Mistral sur la partie large modèle de langage. Donc oui, on est sujet sur lequel on n'a pas aucune raison d'être complexé. On peut faire des systèmes équivalents. Et d'ailleurs, d'une certaine manière, et ça c'est quelque chose qui est très important pour nous, on parle toujours de souveraineté. J'aime pas tellement ce terme, en fait, parce que quelque part, ce qui est important pour moi, c'était de faire émerger en Europe des solutions qui sont les meilleures.
Oui, fort.
Et c'est pour ça que je suis presque plus fier des 20% de chiffre d'affaires que je fais aux États-Unis par rapport aux 80%, parce qu'en France, on est toujours un peu suspect. On
dit, argument de souveraineté trop facile, quoi.
Oui. Et en fait, pour moi, la souveraineté, c'est la cerise sur le gâteau. C'est pas ce qu'on essaye d'agiter en permanence pour justifier l'achat de solutions médiocres. Le benchmark, c'est aller aux États-Unis, parce que ça nous permet de montrer que nos solutions sont aussi bonnes sur le terrain le plus compliqué pour nous, Européens, que les autres solutions.
Et vous êtes parfois face à Palantir, par exemple, dans des appels d'offres où vous gagnez, aux États-Unis.
Aujourd'hui, aux États-Unis, on est sur des très gros clients. Et d'ailleurs, sur certains clients, on cohabite avec eux, hein, puisqu'on a quand même parfois des cas d'usage qui sont un peu complémentaires. Et on doit, de mémoire, on doit avoir probablement une petite dizaine de clients aux États-Unis qui ont à la fois nos solutions et celles de l'Américain.
Et quand on parle de souveraineté, ça va jusqu'où chez vous? C'est-à-dire que vous travaillez avec Mistral, vous hébergez vos données en Europe, c'est-à-dire que c'est toute une chaîne?
Alors, ce qui est surtout important pour nous, et c'est ce que j'appelle moi vraiment la souveraineté, c'est le contraire de la dépendance, en fait. C'est laisser nos clients choisir, en fait. Choisir un hébergeur français s'il le souhaite, un hébergeur allemand, un hébergeur américain, c'est leur donner le choix le plus large possible. Et ça, c'est vraiment la notion de ne pas les rendre dépendants, en fait. d'une certaine manière, demain, vous êtes dépendant à 100% d'un opérateur français. Est-ce que c'est de la souveraineté, en fait? On peut se poser la question, en fait. La souveraineté, c'est la liberté de choisir. Et la liberté de choisir, c'est pouvoir choisir ce que l'on veut. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Faire des systèmes totalement ouverts, qui permettent éventuellement d'aller, en fonction des contextes, choisir ce qui semble être la meilleure solution.
Mais quel intérêt si vous bossez avec Mistral, vous prenez Chape Vision et à la fin vous hébergez vos données avec un acteur américain, c'est-à-dire que quel est l'intérêt? C'est-à-dire que s'il vous manque un maillon de la chaîne, il faut aller jusqu'au bout, non?
Mais enfin, et c'est ce qui est important, c'est que la notion de souveraineté, elle ne se mesure pas à l'aune de est-ce que je contrôle toute la chaîne de bout en bout, parce que personne n'est capable de le faire. On parle des Américains, ouais. Mais enfin, les Américains aujourd'hui, juste pour être clair, ont leur infrastructure cloud, ont leur logiciel Palantir, mais ça s'appuie sur des puces NVIDIA en IA. Mais les puces NVIDIA, elles sont fabriquées par qui? Elles sont fabriquées par Taïwan, par TSMC, et lui-même est dépendant de l'européen ASML, qui produit en fait les machines à fabriquer les composants. Et si vous regardez derrière, vous avez quoi? Et même ASML, acteur européen, est dépendant de Zeiss.
La liberté, c'est le choix.
Ouais. Donc, quelque part, en fait, cette notion de on doit contrôler toute la chaîne, ça, c'est quelque chose qui n'a aucun sens et qui ne colle à aucune réalité. Par contre, avoir la possibilité
de changer de fournisseur, de choisir,
ça, c'est la vraie liberté.
Merci beaucoup d'être venu ce matin, Olivier Dellenbach, PDG de Chape Vision.